Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Merci Christelle, vous avez eu raison de passer ce week-end à Paris. D'abord parce que vous n'avez pas eu les embouteillages que tout le monde a eu.
Et puis
il fait quand même beaucoup plus chaud à Paris qu'à l'extérieur de Paris. Parce que
donc je ne bouge pas.
Voilà. C'est bien. Mais on pense à tous ceux qui sont en vacances, en week-end et qui auraient espéré évidemment le beau temps et le soleil. On est malheureux pour eux. D'ailleurs, ils peuvent nous appeler au 3210. Mais pour le moment, on est sur le sujet du masque. Et je rappelle que les Américains vaccinés contre la Covid-19 peuvent dire adieu à l'un des symboles de cette pandémie. Pour eux, les autorités sanitaires ont levé jeudi leur recommandation de port du masque. Un grand jour, selon Joe Biden. Christophe est avec
oui,
nous, qui habite dans le Nord et qui souhaiterait qu'on ne porte plus le masque à l'extérieur.
Bah écoutez, déjà, pour rester dans votre sujet, ce matin, moi, ma mère qui est en EHPAD, j'appelle pour la prendre à la fête des mères. Donc, tous les résidents de son EHPAD sont vaccinés, les deux vaccins. Et on me dit qu'elle va devoir être en quarantaine. Et ils vont encore devoir m'aider. Je veux dire, il y a un moment, le vaccin, il faut que ça serve à quelque chose. Si les gens sont vaccinés...
C'est-à-dire qu'il a... répétez-moi ça. C'est-à-dire qu'elle va sortir, votre
si
mère,
prendre...
et si elle revient, elle sera en quarantaine dans l'EHPAD.
Elle sera en quarantaine 7 jours. Et j'ai rien contre l'EHPAD. Hein. Non, mais c'est le règlement global. Hein.
Mais elle a quel âge, votre maman?
Elle a 88 ans, elle a eu ses deux vaccins. Donc le choix est cornélien, où elle reste seule à la fête des mères dans son EHPAD, où je l'emmène et elle est 7 jours isolée.
Mais cet exemple, pourquoi elle est isolée si elle est vaccinée, si elle a eu ses deux doses?
Bah, vous savez pourquoi on met un masque dehors alors que Gérard Kreizek, que vous recevez souvent sur vos plateaux ou même d'autres scientifiques, disent que le risque est de 0,000. Et tout le monde met un masque dehors.
Vous pensez qu'on peut appeler l'EHPAD de votre maman pour faire quelque chose?
Non,
mais ça serait intéressant de savoir. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on ait ceinture et bretelles jusqu'au bout de la nuit, mais...
Non, mais si vous voulez, je vais signer une décharge, mais c'est quand même fou de devoir signer une décharge. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est... Les Américains ont raison. Il y a un moment, quand on a
vacciné, pourquoi
certaines choses, bah pour pouvoir la sortir quand même. Mais sinon, eux, ne l'auraient pas permis.
Ah oui, mais elle...
Moi, j'assume.
Oui, mais je suis d'accord, mais elle aura quand même la quarantaine. En revenant.
Bah, je vais essayer de négocier avec eux parce que je fais confiance aux êtres humains. Je vais essayer d'avoir. Mais ce qui est dingue, c'est cette surprotection, ce principe de précaution poussé à l'extrême. Si quand on a les vaccins, on peut même plus enlever les masques, à quoi ça sert de se faire vacciner? Vu qu'ils nous disent, je reprends les pattes de ma mère, monsieur Pro, il y a deux personnes âgées vaccinées qui ont eu de nouveau le virus, mais qui n'ont eu aucun symptôme, c'est ce qui se dit sur vos plateaux. Donc c'est pas grave s'ils rechopent le virus, mais qu'ils ont rien. Eh ben non, sous principe qu'ils peuvent être porteurs, mais on sait jamais, on va continuer ces précautions. Il y a un moment, il faut quand même que la vie normale reprenne.
Mais
donc
oui,
on peut
mais...
pas être toujours sous cloche. Tant mieux pour les Américains. J'espère qu'on aura la même chose en France. Mais vous savez, quand je vois que les gens acceptent le masque dehors, soit ils vous regardent avec des yeux ronds quand vous ne l'avez pas, comme si vous alliez les tuer par un cracheur, ou alors ils sont blasés comme des moutons de panurge. Je crois qu'on leur demanderait, les Français, de mettre un bouclier parce qu'il y a un éclat de météorite qui va tomber. Ils prendraient un bouclier. Mais il y a un moment, il faut quand même peser le pour et le contre, quoi, quand les risques sont de 0, le masque à l'extérieur est la chose la plus difficile à supporter pour les gens. Moi, je suis kiné, je peux vous le dire.
Non, mais je partage avec vous, je disais tout à l'heure que parmi toutes les contraintes depuis un an, je trouve que c'est la pire et c'est la pire symbolique. Mais je trouve surtout que parler avec quelqu'un qui ne penserait pas comme vous sur ce sujet-là, c'est quasiment impossible. C'est ça qui me frappe.
Vous passez pour un complotisme.
Non, mais les deux camps ne peuvent pas s'entendre. Je remarque que c'est incroyablement passionnel et que c'est très difficile d'échanger des arguments là-dessus parce qu'au bout d'un moment, l'argument du camp d'en face, si j'ose dire, c'est de dire « tu veux que je t'emmène en réa ? Tu veux que je te dise le nombre de personnes qui sont mortes ?» Donc toute discussion s'arrête immédiatement et c'est compliqué. C'est compliqué, c'est passionnel et je n'arrive pas...
Sauf si vous avez, Pascal, la chance comme moi de l'avoir fait, d'avoir eu quelqu'un de votre famille. Parce que souvent, la phrase qu'on vous dit, c'est « tu ne l'as pas vécu ». Bah, je dis « si, moi j'ai eu le Covid et au bout de 15 jours, je reprenais le boulot alors que mes poumons étaient touchés. Oui, un de mes parents l'a eu. » Parce qu'en fait, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir. Mais vous savez, quand le propre ministre de la Santé, M. Véran, s'en va dire à l'Assemblée nationale cette phrase qui a été célèbre « ah oui, mais moi, monsieur, mon quotidien, c'est ces deux jeunes hommes de 23 ans. » Excusez-moi, faut vraiment, excusez-moi le terme, je suis sur une radio, mais être abruti pour parler de deux cas particuliers, vu qu'il y en a très 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 peu.
Ouais, et je vais retirer pour vous
le mot.
Le mot
abruti,
voilà, parce que c'est le ministre de la Santé. Voilà,
non, mais
et je ne souhaite pas que.
Faut être populiste et vouloir faire peur aux gens.
Mais non, mais c'est même. Honnêtement, c'est même pas ça. Je veux dire, c'est même pas ça. C'est que ça, cette épidémie, elle percute nos ADN. C'est-à-dire qu'ils le pensent vraiment. Et moi, je vois, il y a des gens
mais
qui...
Mais il est médecin, il ne peut pas le penser.
Mais il y a des gens qui sont...
Ou quelqu'un qui s'y connaît pas en santé, il est marqué, mais un médecin...
Qui sont peureux, anxieux, je ne sais pas comment le dire, et qui, depuis un an, vivent un calvaire. Donc, je peux les comprendre.
Oui, mais ceci dit, au plus les gens ont peur, M. Preux, au mieux vous les contrôlez. Comme ils ont peur, vous leur faites avaler n'importe quoi. Et vous dites... Et c'est comme ça, excusez-moi, moi je le dis depuis le début, je chope les gens, on est dans une dictature sanitaire. On
non, parce que le mot dictature, sanitaire. Non, le mot est trop fort. Évidemment, on n'est pas dans une dictature sanitaire.
Ah bon,
mais non.
Vous allez faire attraper, contrôler par les flics partout où vous allez avoir un couvre-feu. Moi j'ai des patients âgés, ils me disent même pendant la guerre, on vivait mieux que ça. Hein.
Oui,
c'est des personnes âgées qui me le disent.
Honnêtement, non plus.
Je les écoute.
Oui, mais ils disent ça parce qu'ils ont oublié. Mais vous ne pouvez pas comparer, bien évidemment.
En tout cas, il y a un déni de démocratie. On n'est plus dans une démocratie. Je veux dire, c'est les médecins qui décident, c'est le conseil scientifique.
Non plus. Regardez, depuis quelques mois, Emmanuel Macron s'est affranchi de ça.
Un petit peu, pour des raisons politiques. Et tant mieux pour nous. Mais je veux dire, arrêtons d'avoir toujours peur. Et vivons, prenons, il y a des risques, soupesons-le, mais là, Biden, il a raison. Mais nous, en France, on ne le fera pas. Tant qu'il restera 0,01, ben, on n'aura pas de vie.
N'ayez pas peur,
on va devenir des ermites, on ira vivre à la campagne.
N'ayez
pas peur. Je capte encore RTL, hein, je vous entendrai encore là-bas.
Mais non, mais c'est vraiment un débat très intéressant. D'ailleurs, Franck va être là dans une seconde. Restez avec nous, Christophe, parce que je disais qu'on ne peut pas se parler quand on n'est pas d'accord sur ce sujet. Il se trouve que Franck...
Vous allez essayer de me faire parler avec quelqu'un.
Exactement. Franck, qui est artisan, qui est lyonnais et qui a 43 ans, c'est au moins trois qualités, eh bien, il va pouvoir échanger avec vous parce qu'il dit on peut transmettre le virus même en étant vacciné. Donc, il est un pro-masque, toujours et tout le temps. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RT.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
C'est évidemment qu'à RTL, en situation de travail, chacun peut porter le masque. C'est le cas de Laurent Tessier en ce moment, de Greg Caranoni, de Pierre-Louis, de ceux qui sont au standard. Cyrano est là, Olivier est là. Qui est là encore?
Anthony.
Anthony est
bien
là aujourd'hui.
Sûr.
Donc là-dessus, il y a une application stricte, bien évidemment, et que chacun accepte quoi qu'il arrive.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le sujet, vous l'avez entendu, qui vous fait réagir. Seriez-vous prêt à poser votre masque une fois vacciné? Les Américains vaccinés contre le Covid-19 n'ont plus besoin de le porter en intérieur. Le président américain Joe Biden a salué un grand jour dans la lutte contre la pandémie.
If you've been fully vaccinated, you no longer need to wear a mask. Let me repeat.
Si vous êtes vacciné, vous n'avez plus besoin de porter un masque. Faut-il prendre alors la même mesure en France? L'infectiologue Benjamin Davidot était l'invité de RTL Midi.
Si on arrive à une vaccination suffisante, c'est-à-dire caricaturalement plus de 50% de la population, on pourra se trouver dans une situation où on sera dans un principe de précaution, donc de recommandation. Et une fois qu'on aura atteint cet objectif, c'est-à-dire plus de saturation à l'hôpital et donc plus de mesures de confinement et tout ce qui va avec, à ce moment-là, on ne sera plus dans une obligation du port du masque.
Vacciner et ne plus porter le masque, je n'attends que ça, écrit Michel sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole, on ne s'en sortira jamais, sinon on va vivre comme ça encore des mois. Ben, ça serait pas mal pour le moral aussi, rajoute Thierry, on ne va pas le porter indéfiniment, lance Grégory, il faudra bien reprendre ses habitudes. Pour Jeanne, attendons encore, n'oublions pas les variants. Et le jour où je ne le porterai plus, ce sera très étrange, conclut Alain, on aura vraiment l'impression qu'il nous manque quelque chose.
Nous sommes avec Franck, et je disais que Franck, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous êtes favorable au port du masque, même vacciné?
Pardon, je suis favorable au port du masque, même vacciné, en intérieur. En extérieur, les études ont montré que la contamination était quand même moins risquée, on va dire, on se contamine nettement moins. Donc, pour l'extérieur, les gens qui sont vaccinés, je suis favorable à ce qu'on puisse laisser le masque, laisser tomber le masque. Okay. Par contre, en intérieur... Clairement, on n'a pas encore atteint un niveau suffisamment élevé au niveau pourcentage de personnes qui sont vaccinées, qui ont eu leurs deux doses, et je pense que ça serait relativement imprudent de lâcher le masque, maintenant. Et j'ajoute quelque chose, Pascal, c'est que inciter les gens à lâcher le masque en extérieur, les gens qui ont été vaccinés, ça peut-être pousser ceux qui ne sont pas... très enclin à se faire vacciner, à dire, après tout, c'est le début de la liberté retrouvée, après tout, moi aussi, je vais me faire vacciner, Comme ça, moi aussi, au moins à l'extérieur, on pourra lâcher un peu le masque et aller se promener avec ses enfants, aller manger une glace, aller...
Donc vous pensez qu'au fond, symboliquement, c'est pas mal aussi de porter le masque à l'extérieur pour la raison que vous venez de dire, pour ne pas donner un mauvais signal, c'est ça que vous me dites?
Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Porter le masque à l'extérieur, si vous n'êtes pas vacciné, il le faut. Si vous êtes vacciné, je pense qu'on doit pouvoir, les gens qui ont été vaccinés, ils doivent pouvoir retirer leur masque à l'extérieur. Mmh. Voilà, ça, alors c'est compliqué à mettre en place parce qu'il faudrait pouvoir être sûr que les gens qui disent bah, « j'ai été vacciné », ils l'ont bien été, mais ça serait déjà un début.
De toute façon, à l'extérieur, il n'y a pas de contamination, donc tout le monde pourrait... on me dit depuis des mois qu'il n'y a pas de contamination, il n'y a pas de cluster à l'extérieur, sauf des cas extrêmes, visiblement, mais qui représentent...
Je ne serais pas aussi catégorique que vous.
Je n'en sais rien, je répète ce que j'entends. Oui, je ne suis pas médecin ni épidémiologiste.
Je ne serais pas aussi catégorique que vous. Mmh. Autant pour l'intérieur, là-dessus, on est certain que les contaminations, il y a un risque. Mmh. Autant pour l'extérieur, je pense qu'il faut, quand même...
En tout cas, vous le portez tout le temps, Franck. Vous êtes plutôt prudent.
Moi, je vous explique. Moi, je suis artisan et je me déplace chez les gens. Je me déplace chez les gens pour des interventions, etc. Donc, je dois porter le masque tout le temps parce que je suis pas censé, savoir si les gens ils ont fait attention et les gens sont pas censés savoir si moi-même j'ai fait attention. Donc, par précaution, je le porte tout le temps. Pascal, juste si je peux me permettre, Ah, Manon, elle peut pas. Parce que j'ai ma femme qui vous adore, qui est fan de vous et qui voulait vous dire un petit mot.
Ah oui, mais elle est timide.
Elle est extrêmement timide. Attendez, je lui passe le combiné. Attendez.
Bon, voilà.
Tu veux pas. Non. Eh ben, elle s'est enfuie dans la.
Elle est partie. C'est pas elle que j'entends, rassurez-moi, derrière vous.
C'est mes enfants, c'est ma femme et mes enfants que vous entendez. Hmm.
Mais vous avez combien d'enfants? Vous avez combien d'enfants, Franck?
Trois.
Bon, il s'appelle comment?
Il s'appelle Jonathan, Lana. Maïlé.
Bon, bah écoutez, vous leur dites, vous les embrassez pour nous. Et je vous remercie grandement. Vous embrassez également votre épouse. Et puis,
Et puis
ce petit débat était intéressant.
Mais on va y arriver, Pascal.
On arrive à tout.
Je vous assure. On est quasiment à 20 millions de personnes vaccinées. On n'est pas loin. Encore un petit effort, on va en sortir.
Les chiffres, justement, du jour. Je ne sais pas si on est à autant que cela, d'ailleurs. Les chiffres du jour que j'ai, c'est alors, le taux d'incidence qui baisse, le taux de positivité qui baisse, on est à 5%. Le taux de reproduction, le R, il est à 0,77. On sait que c'est le 1, lorsqu'il est au-dessus de 1, que l'épidémie progresse. Et puis, la tension hospitalière, elle est redescendue à 86%. Donc, c'est vrai que les chiffres sont plutôt bons. On est à moins de 4500 patients en réanimation aujourd'hui.
Les gens ont compris que c'était la vaccination qui permettrait de s'en sortir.
Bon, vous êtes vacciné, manifestement.
Ah oui,
votre épouse aussi.
Mon épouse aussi. Nous, on a eu les deux doses.
D'accord.
Donc
vous êtes parfait. Si j'ose dire. Merci Franck.
Merci Pascal.
Merci beaucoup. Je salue Greg Caradoni. On parlera du temps, figurez-vous, parce que c'est quand même un sujet.
Oui.
C'est le sujet immuable, celui qui nous fait tous parler. Et évidemment, pourquoi on parle du temps aujourd'hui? Parce que on espérait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, beaucoup qui nous écoutent, qui sont peut-être en vacances, qui ont pris 4 jours, ils espéraient avoir un peu de beau temps. C'est la première fois qu'on sortait des grandes villes, on était libérés. Eh bien, malgré cela, on est libérés, mais on n'est pas ensoleillés. On est sous la pluie, on a froid.
Que voulez-vous, une petite playlist
Une petite playlist, pourquoi pas, des pluies. Et puis comme c'est vendredi, on aura peut-être la visite de l'ami Cyprien Sini aujourd'hui.
Bien sûr.
On défait le monde, 19h15, ce sera avec vous?
Absolument, on sera tous là.
Bon bah, tout de suite.
Je me disais que c'était pas évident pour vous parce que même les femmes qui vous apprécient vous fuient et regardez la femme de Franck.
C'est l'histoire de ma vie.
Bah oui.
C'est l'histoire de ma vie.
Pauvre Pascal.
Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, j'y peux rien. Hein. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Si vous êtes complètement vacciné, vous n'avez plus besoin de porter un masque. Ce sont les mots du président américain dans les jardins de la Maison Blanche. Je pense que c'est une étape importante. Un grand jour, a-t-il ajouté, 35% de la population américaine, soit plus de 117 millions de personnes, sont entièrement vaccinées. C'est-à-dire qu'elles ont reçu soit la dose unique du vaccin de Johnson & Johnson, soit les deux doses des vaccins de Moderna ou de Pfizer. Et elles peuvent donc participer sans risque à des activités en intérieur et en extérieur, petit ou importante, sans porter de masque ni respecter la distanciation physique. C'est ce qu'a dit Rochelle Walensky, la directrice des centres de prévention et de lutte contre les maladies, qui est la principale agence fédérale de santé publique. Nous sommes avec Romain, qui est médecin. Bonjour Romain, vous habitez Paris.
Oui, bonjour.
Votre sentiment sur cette décision ?
Bah, je pense que c'est une bonne décision et qui de toute façon était attendue. On sait que le vaccin limite la circulation du virus. Et on sait que les personnes vaccinées peuvent de toute façon être rassurées tant sur le plan des formes graves de la maladie que sur le fait même d'être infectées et de transmettre la maladie. On a des études en vie réelle actuellement. Donc c'est une bonne décision.
Ah, je crois que je vous ai perdu, Romain.
Je disais, c'est une bonne décision.
C'est une bonne décision. Bon, ouais. C'est une bonne décision, mais elle est sans risque, a priori, selon vous. C'est-à-dire que si je suis vacciné, est-ce que je peux transmettre le virus ?
On sait aujourd'hui que vous pouvez le transmettre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins.
Oui, ça veut dire quoi, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins ? C'est ça qui est... Parce que c'est un peu... Vous voyez, c'est pas très précis.
Le fait est que vous pouvez toujours avoir une expression virale, mais la charge virale est tellement faible que c'est pas un pouvoir contaminant.
Donc, ça, c'est pas encore la même chose. Si vous me dites beaucoup, beaucoup, beaucoup moins et que la charge virale n'est pas contaminante, j'entends avec charge virale pas contaminante, c'est qu'on peut pas le transmettre.
Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on a dans les études d'envie réelle.
Donc on ne peut pas le transmettre.
Non.
Mais ça, vous êtes sûr de cela, si j'ose dire?
C'est des études qu'on a qui sont faites à partir des grandes populations qui ont déjà été vaccinées. Et donc, effectivement, on voit bien que le taux de transmission a complètement chuté. Alors, il n'est jamais nul, si vous voulez. Il n'y a jamais de risque zéro. Ça n'existe pas, le risque zéro. Mais de toute façon, là, à grande échelle, on voit bien que la vaccination diffusée et toutes les personnes vaccinées ensemble, ben là, il n'y a plus de risque de transmettre.
Vous êtes donc d'accord avec Biden. Vous êtes médecin à Paris. Vous êtes généraliste peut-être, Romain ?
C'est ça, généraliste, bon. C'est
génial. Quand j'entends dire que le fait d'avoir porté le masque, et notamment pour les plus jeunes, a peut-être contrarié l'immunité de chacun, parce que on n'est plus habitué à se battre ou à combattre un virus, est-ce que c'est une réalité ?
On a vu qu'il y avait beaucoup moins d'autres virus qui ont été présentes ces dernières semaines et ces derniers mois. Effectivement, donc on va ces 12 derniers mois, sur 15 derniers mois, on a eu beaucoup moins d'autres virus, de gastro-entérite, de grippe qui a quasiment disparu cette année. Donc effectivement, on a moins développé notre immunité, mais nous n'avons pas vocation à garder tout le temps ce type de protection. Si on peut être tranquillisé par le fait de vacciner un maximum de personnes, on va pouvoir retirer le masque et après, eh bien, dans les mois à venir, on fera peut-être comme dans d'autres sociétés, notamment les sociétés asiatiques, où quand on a des symptômes, quand on a un risque de symptômes, eh bien, on porte un masque. C'est pour protéger les autres. Et puis si on est dans une période où il y a une grande circulation du virus, que ce soit le virus de la grippe ou autre, eh bien, on peut proposer de remettre des masques dans les endroits clos.
Ah, vous me faites peur, Romain. Ça, c'est ce que vous, la dernière phrase, c'est exactement ça, ce que je crains, et j'ai peur que ça devienne la norme. C'est ce qu'a dit Jean Castex, hein, d'ailleurs, dans cette interview au Parisien. Mais pour revenir au fait qu'on ne développe pas son immunité, c'est ennuyeux ou pas ?
Non, parce que là, c'est au final, là, on n'a que 15 mois de recul. Donc non, il n'y a rien d'ennuyeux.
D'accord.
Mais de toute façon, on va être en contact tout au long de sa vie avec des virus. Prenons des virus qui sont tout à fait bénins, comme le CMV.
Il y a c'est quoi le CMV ?
C'est le cytomégalovirus, qui est un virus qui est absolument bénin chez tout le monde.
Tout le monde ne le sait pas, si vous me permettez, Romain, vous parlez de ça comme si... Mais
non,
le CMV...
CMV, c'est un virus qui est présent chez plus de 75% de la population, qui est bénin chez les enfants, chez les adultes, qui peut potentiellement être un virus à risque chez les femmes enceintes. Et voilà, mais vous avez... Quand vous prenez une échelle de population, il y a des gens qui l'ont rencontré, qui l'ont rencontré très tôt, vers 10-15 ans, et puis d'autres qui le rencontrent 30, 35 ans, voire après. Donc, c'est, de toute façon, elle se fabrique au fur et à mesure, votre immunité. Mais je pense que, pour revenir sur le fait de porter le masque dans les périodes épidémiques, je ne dis pas de le porter de façon obligatoire, mais que ce soit un réflexe quand on est soi-même enrhumé. Enfin, je parle dans un avenir, hein, dans l'avenir, à l'avenir, pas actuellement, hein, pas aujourd'hui. Si vous avez des symptômes aujourd'hui, vous faites tester, c'est pas le problème. Mmh. On a un virus qui circule. Mais je parle dans les mois et dans les années à venir. Bah, vous avez des symptômes viraux. Vous mettez un masque, quoi.
C'est... Ce que je trouve dommage, et ce qu'on aura appris dans cette épidémie, c'est effectivement cette immunité. Et puis, il y a peut-être des gens qui sont parfaitement, qui n'attraperont jamais le virus pour des raisons qu'on ne connaît pas. Mais ce que je trouverais intéressant pour chacun de nous, c'est de savoir comment nous répondons au virus. Quel est, au fond, notre niveau d'immunité ? Alors, je ne sais pas si ça existe, des tests pour savoir. Chacun saurait s'il est plus fragile que d'autres. Alors, vous me direz, c'est un peu empirique. Déjà, on le sait un peu. Il y a des gens qui se disent, moi, dès qu'il y a un rhume, je le prends. Dès qu'il y a une grippe, je le prends. Mais je me demandais s'il y avait une manière de rationaliser cela.
Pour le coup, il y a tellement de virus, et les expressions virales, et d'ailleurs le Covid l'a montré, sont tellement multiples.
C'est impossible.
Possible, mais non. Ce qu'on peut voir, c'est aussi comment on réagit, est-ce qu'on a des formes graves ou non graves, parce que c'est ça toute la question.
Bah merci en tout cas Romain de ces précisions, merci beaucoup.
Donc, j'espère que ça va inciter un maximum de personnes à se faire vacciner.
Vous vaccinez-vous beaucoup en ce moment ?
Alors, à l'hôpital où je travaille, oui, on vaccine énormément. Dans les centres de vaccination, on vaccine. Au cabinet, un petit peu moins, parce qu'il y a eu la problématique avec le vaccin AstraZeneca que vous connaissez.
Et pas d'effet secondaire parmi tous ceux que vous avez vaccinés ?
Non. Aucun.
C'est-à-dire que vous avez vacciné combien de personnes ?
Oui, des effets minimes.
Oui, mais depuis 2 mois, vous avez vacciné combien de personnes ?
À l'hôpital ? À l'hôpital, c'est compliqué à vous dire. Personnellement, moi... Quand je suis au centre de vaccination de l'hôpital, j'en vaccine 60 par semaine. Donc, mais on en vaccine des milliers.
Oui, non, mais ce qui m'intéresse toujours, c'est vous perso. Donc, ça fait, admettons que vous ayez vacciné 600 personnes, par exemple, depuis 2 mois.
Oui, c'est un minimum, oui.
Un minimum. Bon, sur ces 600 personnes, c'est évidemment pas une stat que je vous demande, mais c'est simplement votre rapport à vous, votre test à vous. Aucun effet grave.
Non.
Bon, ben ça, c'est important de le dire.
Non, aucun effet grave.
Non, mais c'est très important de le dire. Merci beaucoup. Merci, Romain. Nous sommes avec Pascal, avec un nœud. Bonjour, oui. Pascal, qui est avocate dans l'Aisne.
Oui, ben c'est pas en tant qu'avocate que j'appelle.
Ah bon?
Non, c'est en tant que plutôt qu'épouse d'un médecin, chanteuse, et surtout le fait que ben, je ne supporte plus le masque, je ne l'ai jamais supporté. Mmh. Et maintenant que je suis vaccinée, je le supporte encore moins, et il est hors de question que je le porte pour aller me promener en ville alors qu'il y a pratiquement personne, pour aller me promener sur le bord du canal à Saint-Quentin où il y a pratiquement personne, voilà. Et donc moi je revendique de me libérer du masque le plus vite possible, voilà.
Bah, j'entends, mais vous comment dire, vous admettez quand même, quoi, vous l'appliquez, parce que d'abord c'est la loi, et puis vous n'avez pas envie d'entrer en conflit, j'imagine, avec les uns et les autres que vous croisez. Donc vous faites contre mauvaise fortune bon cœur, comme on dit.
Non, mais c'est-à-dire, bon, là où je suis obligée, donc dans les commerces, de toute façon, bien entendu que je porte le masque, bien entendu. Mais là où j'estime que qu'il n'y a absolument aucun problème, à partir du moment où on est tous dispersés, je lâche le masque absolument. Je supporterai pas de continuer à l'avoir sur le nez pour simplement me promener. C'est une atteinte à ma liberté. Et ça, je revendique. Cette liberté de ne pas porter de masque.
Et oui, mais j'entends.
J'ai pas peur particulièrement de me faire verbaliser. Enfin, non, ma liberté avant tout.
Oui, mais vous savez ce que vous disent dans ces cas-là, c'est que vous avez une responsabilité collective. C'est pour ça que les discussions sont très très difficiles à mettre en place. Parce que quand vous affichez votre propre liberté, l'autre, et ça s'entend, va vous dire « mais vous n'êtes pas seul au monde ».
que de faire deux catégories de personnes, ceux qui sont vaccinés qui portent pas le masque et ceux qui voilà qui n'ont pas réussi à se faire vacciner qui portent le masque et qui sont peut-être un peu jaloux ou, voilà c'est je pense que c'est le problème actuel, c'est la problématique actuellement.
Il y a beaucoup de psychologie effectivement dans ce sujet du masque. Il y a parfois, c'est vrai, disons-le, une forme. Certains aiment bien montrer une forme d'autorité dans la rue, par exemple. Vous n'avez pas votre masque. C'est compliqué parfois, les rapports sont assez tendus.
Ça semble vécu, non ?
Non, ah non, moi je suis très. Ah. Attendez, là je ne vais pas m'amuser en plus. Non, je le porte parce qu'après c'est pire. Vous croyez tout permis, vous ne prenez pas le masque. Voilà, donc croyez-moi, je le porte et il n'y a pas de souci. La pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et Laurent Tessier à 13h30.
Nous sommes le 14 mai, vous en avez marre du mauvais temps, de la pluie, des nuages, bah oui, du manque de chaleur. Venez nous le dire au standard.
Toute la pluie tombe sur moi. Oui, même moi je fais comme si je...
Vous êtes parti pendant ce week-end de l'Ascension. Quel temps fait-il chez vous ? Avez-vous ressorti la doudoune, la couette ? Faisons un tour de France tous ensemble au 32-10. Et puis le 14 mai 1998, il y a 23 ans, l'acteur et chanteur américain Frank Sinatra nous quittait.
Vous êtes en avance.
Chanson de circonstance avec
vous êtes en avance, cher ami. Ou en retard.
C'est un effet, Pascal, il vient de parler de la météo.
Mais oui ! Ah, vous n'aviez pas compris ?
Jingle bells, oui.
Météo d'hiver.
Oui, oh, c'est pas l'hiver quand même. C'est vraiment le. Il fait frisquette, mais bon.
Bon, ça va jamais. De
toute façon. Si, ça va jamais. Bon, on va faire un petit dialogue. Un débat. Et je disais tout à l'heure, on va tenter un deuxième débat entre les pro-masques et les anti-masques. Alors, je résume un peu, je caricature un peu. Bonjour Paul, chef d'entreprise. Le masque, pour vous, bah, c'est pas votre tasse de thé, si j'ose dire. Paul est avec nous.
Oui, oui, bonjour.
Bonjour Paul. Et je vous présente Annick. Annick, qui est dans la Nièvre, qui est retraitée. Et on va commencer avec Annick parce que votre fille est positive au Covid alors qu'elle est vaccinée. Donc pour vous, il faut garder le masque. Annick, c'est à vous.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bon, oui, je vous appelle. En plus, ma fille est chirurgien-dentiste. Donc le masque, ils l'ont depuis tout le temps pour travailler. Là, elle est partie à l'étranger. Elle est vaccinée depuis le mois de février, Pfizer, les deux injections et tout. Et à l'heure actuelle, à l'étranger, elle est positive. Donc, on l'a eu au téléphone ce matin et elle dit bien qu'il faut porter le masque.
Elle est positive, mais elle a de la fièvre ?
Non, elle n'est pas malade, mais elle est positive vis-à-vis des autres.
Oui, mais bon, si elle est vaccinée, d'abord le vaccin a peut-être fait son effet, autrement...
Oui, mais enfin bon, bloquer finalement, ça veut dire qu'elle peut le transmettre. Hein.
Bah, c'est là qu'il y a débat et que le docteur Sebac qui nous écoute va pouvoir nous dire ce qu'il
parce
en pense.
À l'heure actuelle, elle ne peut pas rentrer parce qu'elle
est où, votre
positive.
Fille ?
Comment ?
Elle est dans quel pays ?
Elle est au Népal.
Ah oui, effectivement, c'est pas la porte à côté.
Ben non, et donc positive, donc pas rentrée, bien sûr, et malgré tout, elle est vaccinée depuis le mois de février.
Bon, le docteur Sebag nous donnera son avis sur la possibilité de transmettre lorsqu'on est vacciné. On lui demande tout de suite. Tiens, bonjour docteur Sebag.
Oui, bonjour,
Robert Sebag, vous nous écoutez. Les gens vous connaissent, bien évidemment. On est vacciné, on peut transmettre ou pas ?
Bon, alors d'abord, c'est vrai que le vaccin, il est à 95% efficace, donc il y a quand même 5% de gens qui peuvent l'avoir. Ce qui est important à dire, c'est qu'effectivement, on a eu beaucoup de gens qui ont été vaccinés, 2 doses, et même plusieurs semaines après, et qui pouvaient être positifs sans contracter la maladie. C'est-à-dire ça va éviter ça, c'est déjà extrêmement important. Après, la question qui se pose, est-ce qu'ils peuvent transmettre ? En général, ce sont des charges virales extrêmement faibles, mais le risque existe. Le risque existe. Puisqu'on sait, si vous voulez, qu'il y a une nette diminution de la transmission grâce au vaccin, ce qu'on sait aujourd'hui à travers les études qui ont été faites au Royaume-Uni, qui ont été faites en Israël, mais ce n'est pas du 100%.
Hein. Oui, mais donc, c'est ça, le risque existe. Le risque existe aussi que je prenne une météorite en sortant d'RTL.
Exactement.
Mais moi, c'est trop flou pour moi, le risque existe. Est-ce que c'est infinitésimal et à ce moment-là, ça n'a pas... on n'en tient pas compte. Ou est-ce que le risque, il est par exemple de 10%? Et là, ça s'entend.
Non, je dirais même qu'il est moins. Il est moins de 10%. Il est moins de 10%. Il existe. Nous, scientifiquement, Pascal, ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que c'est des charges virales extrêmement faibles sur les gens qui sont vaccinés. On les a mesurées, mais malgré tout, il y a quelques particules virales qui existent. Bon. Ça veut dire qu'un minimum de prudence, en particulier à l'intérieur, mais absolument rien à l'extérieur.
Bon, ça, Annick...
Oui, non, mais nous... En permanence. Oui, mais le masque, bon, nous, moi, on l'a eu au téléphone ce matin, elle dit surtout, elle a entendu les événements, enfin, les dispositions des États-Unis, elle dit surtout, faut pas lâcher le masque. Eux, quand ils travaillent en tant que dentiste, ils l'ont toute l'année, bon, ça, c'est autre chose. Et nous, l'an dernier, on était bloqués au Cambodge pour le même problème, on a porté le masque, on a température et tout, et là-haut, si vous regardez le Vietnam et le Cambodge, ils ont quasiment pas de cas.
Bah écoutez, en tout cas, Annick, vous êtes une famille de voyageurs.
Oui, voilà, et on aime ça. Malheureusement, on va être bloqué un moment. Mais bon, c'est pour dire que le masque, je vois, c'est pas quand même insurmontable.
Bah, c'est pas insurmontable pour vous. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que vous...
Mais quand on était, l'année dernière, qu'on était au Cambodge, si vous voulez, on nous prenait la température 15 fois quand on rentrait à l'hôtel, 15 fois quand on allait quelque part. On s'est soumis, on a mis les masques et tout ça, on est rentrés, on nous a surveillés hardi petit, et bon, on a fait avec. Bon, moi je suis en retraite, je reconnais...
Monsieur Sebag. Monsieur Sebag.
Je vais vous décevoir parce que je regarde ça de près. Malheureusement, un pays comme le Cambodge, comme le Laos et comme la Thaïlande, c'est en train de repartir.
Oui, c'est en train de repartir. Je suis d'affaire aussi. Hein. Mais
non,
je veux
non,
dire,
voilà,
moi,
non,
nous, en tant que retraités, ce matin, j'étais en course, il y a une dame âgée qui n'avait pas son masque. C'est moi qui lui ai dit.
Non, mais oui.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux circonstances. Il y a la circonstance à l'extérieur et la circonstance à l'intérieur.
Et bien là, c'était dans un magasin, la dame n'avait pas son masque.
Voilà.
Hein.
La circonstance à l'extérieur, on le sait aujourd'hui, le risque de contamination, il est extrêmement faible, à moins d'être collés les uns contre les autres, de chanter.
Eh bien, vous irez dans les grandes surfaces, vous verrez comment que ça se passe. Hein.
Non, mais je sais.
Elles ne sont pas à l'extérieur, les grandes surfaces, si vous me permettez, voilà. Annick.
Justement, si vous voyez comment ça se passe et que les gens, masques mal mis et tout ça, on peut se poser des questions.
Non,
les gens...
Pascal, c'est vrai que si on prend la France aujourd'hui, on est malgré tout sur un niveau encore malheureusement extrêmement haut. On est sur 19 000, alors même ce ne sont pas des cas très très graves, mais qui peuvent alimenter doucement les services de réanimation. Et c'est vrai que ça a nettement baissé. Ça, je me dois de le dire, je le vois dans mon service à l'hôpital, je le vois en réanimation, ça a baissé, il faut tenir.
Et il n'y a plus de cas, j'imagine qu'il y a de moins en moins de gens fragiles, puisque ces gens fragiles ont été vaccinés.
Ont été vaccinés, voilà. Bon. Donc, si vous voulez, la conjonction de la vaccination, si vous voulez, des mesures barrières qui ont été malgré tout respectées. Alors maintenant, il faut toujours rester vigilant, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un petit peu, il faut ouvrir, et ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais effectivement, regardez et gardez encore un minimum de précautions sur les gestes barrières. Et au jour le jour, Pascal, on va regarder ce qu'il en est, s'il y a des modifications par rapport à l'ouverture. Ça va se faire d'une manière très progressive dans les terrasses. Vraiment à l'extérieur, je pense qu'il faut le dire, hein, il faut le dire et le répéter. Le risque à l'extérieur, on l'a calculé entre 0,5 et 4 % de risque de contamination à l'extérieur, alors qu'il est beaucoup plus élevé à l'intérieur. C'est ce qui explique d'ailleurs les 19 000 contaminations journalières. Elles se font le plus souvent à l'intérieur. Et bon. Ça, on en a une vision très claire aujourd'hui.
Bon, ça, c'est rassurant. Simplement, j'avais annoncé un débat entre Annick et Paul. Et finalement...
Mais
Robert, c'est de ma faute. C'est moi qui vous ai demandé votre avis et voilà. Il était important.
Mais tout à fait. Hein. De toute façon, on n'est pas médecin, nous. Hein.
Mais, vous savez, on l'est devenu, cher Annick, cette année.
Faites très attention, de toute façon, parce que c'est vrai que...
Je suis très impressionné par
notre niveau d'épidé. Ah ben moi
aujourd'hui dans les conversations grand public entre guillemets, les gens parlent. Alors toi la sérologie, elle est combien? Et ton PCR, il est ton test sanitaire, il est combien? Et dis-moi qu'est-ce qu'il en est des anticoagulants? C'est impressionnant. Je veux dire, il y a eu si vous voulez un apprentissage d'un certain nombre de termes qui m'impressionne la part des journalistes et du grand public en général.
Mais exactement, le grand public, vous avez raison, si vous croisez les gens, pas que les journalistes. En tout cas, merci Robert Sebag. Merci toujours d'intervenir sur cette antenne avec bienveillance et avec nuance également. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir. Alors Annick, on a bien compris qu'Annick, lorsqu'elle croise... Bon week-end, Robert. Faites pas trop de vélo parce qu'il pleut. Hein. Ça, les chaussées sont glissantes.
Là, je me rattrape, là. Je fais du vélo.
Ah oui, vous faites du vélo, mais faites attention, les chaussées sont glissantes. Vous avez bien compris que Annick, lorsqu'elle croise quelqu'un dans un magasin qui n'a pas de masque, elle lui demande de porter son masque. Et elle a raison, sans doute. Elle va donc pouvoir discuter avec Paul, je vous l'annonçais il y a quelques minutes, qui est donc chef d'entreprise dans le Var, et ce sera après la pause. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors Annick est toujours avec nous. Juste Annick, lorsque vous avez dit à cette dame dans le magasin, une dame âgée m'avez-vous dit qu'il ne portait pas son masque, elle le portait mal ou elle ne le portait
elle
pas?
Elle ne le portait pas du tout. Elle avait oublié.
Elle avait oublié. Et qu'est-ce que vous lui avez dit alors?
Je lui ai dit, madame, vous n'avez pas votre masque. Ah bon? Elle m'a dit, oh, j'ai oublié. Mais bon, à l'entrée du magasin, personne ne lui a dit de mettre un masque.
Mais elle était contente que vous lui disiez.
Elle l'a mis tout de suite. C'est une personne âgée. Moi, je ne sais pas si elle était vaccinée ou pas. Hein.
Bien sûr. Et elle était contente que vous lui disiez ça.
Elle n'a pas été désagréable. Voilà. Elle n'a pas été désagréable. Parce qu'il y en a qui sont désagréables quand on leur dit ça.
Parce que vous le dites souvent?
Ah, ben c'est arrivé. Hein.
C'est pas vrai. Vous le dites comment dans ces cas-là? Vous pouvez dire par exemple comment vous dites à quelqu'un qui porte pas son masque?
J'ai dit, madame, je crois que vous avez oublié votre masque.
Gentiment.
Évidemment, bien sûr.
Et est-ce qu'il y a parfois quelqu'un qui vous a dit, écoutez, occupez-vous de vous?
Ils tournent les talons, mais ils le mettent. Hein.
Ils n'ont pas le choix avec si vous leur parlez.
Il y a des magasins où ils vous oublient et vous rentrez pas. Mais là, apparemment, il n'y a pas eu de contrôle, donc.
Alors là, vous allez pouvoir échanger avec Paul. Hein. J'annonçais ce débat depuis quelques minutes. Et Paul, vous écoutez Annick. Paul, bonjour. Qu'est-ce que vous inspire la position d'Annick, Paul?
Quand je rentre dans un magasin, effectivement, je mets un masque. Par respect, par politesse pour les propriétaires du magasin et les gens qu'elle attend. Mais quand je suis dehors dans la rue, je suis désolé, je ne porte rien du tout. Pour une seule et bonne raison, j'ai énormément voyagé. J'étais dans des pays où il y avait des épidémies, comme au Moyen-Orient, le choléra. J'ai été en Inde, j'ai été en Afrique noire, en Guinée-Conakry, tout ça. Je prenais mes règles d'hygiène. Je me lavais normalement, je me désinfectais normalement. J'ai jamais rien eu.
Mais vous savez,
alors c'est pour ça.
Dans des villes comme nous, on est tenu, c'est obligatoire d'avoir le masque dans les rues du centre-ville.
Alors, je vais vous dire une chose. Il y a une loi de 1900 sous Nicolas Sarkozy, la loi 1192, qui vous interdit de vous couvrir le visage dans des lieux publics. Par contre, l'autorisation du masque, c'est une circulaire ministérielle ou un arrêté préfectoral. Donc, si vous voulez, pour qu'il y ait une loi, il faut qu'ils abolissent d'abord la loi 1192 qui a été votée sous Nicolas Sarkozy, comme quoi il est interdit de se couvrir le visage dans des lieux publics.
Écoutez, vous, la loi. Vous êtes la première personne qui dit ça. J'ai jamais entendu ça.
Un cas particulier là.
Moi, je l'ai sorti à des gendarmes quand j'étais contrôlé. Je leur ai sorti le texte de loi parce que je l'ai gardé avec moi.
Ouais, c'est
et
pratique,
je leur ai montré. Voilà, c'est tout. Il y a une loi. Quand on fait des lois en France, il faudrait d'abord qu'on abolisse les anciennes. Ce que l'on ne fait pas. C'est pour ça qu'il y a des arrêtés ministériels, du moins des arrêtés préfectoraux et des circulaires ministériels. Il n'y a pas de loi qui vous oblige à mettre un masque.
Je suis d'accord, mais bon, convenez que ce qui m'intéresse, c'est le fond. Annick, vous le portez à l'extérieur, le masque?
Ah oui, parce qu'on est obligé.
Vous le portez par conviction ou par obligation?
Eh bien, par respect de tout le monde déjà, et puis pour moi-même, parce que, nous, on a, comme vous disiez tout à l'heure, nous, on a voyagé, on a été dans des pays où il fallait être masqué, où tout le monde était masqué, et puis ça posait aucun problème.
Mais ce n'est pas exactement ma question, vous en conviendrez, Annick. C'est par conviction ou par obligation?
Eh bien, par obligation. D'abord, déjà, je veux pas.
Est-ce que vous êtes convaincu qu'il faut porter le masque dehors? Est-ce que, quand M. Sebag dit tout à l'heure, il n'y a pas de risque? Parce que, en fait, il y a un risque si vous êtes l'un à côté de l'autre, peut-être dans des cas très précis, etc. Mais quand vous marchez dans la rue, c'est très rare quand même.
Il y a deux cas de figure. Déjà, je le porte parce que nous, je vous dis, en centre-ville, on est tenu de le porter.
Donc ça, c'est par obligation, mais ça, il n'y a pas de sujet, j'entends. Mais est-ce que vous trouvez que c'est juste?
Par sécurité, parce qu'on ne sait pas du tout à l'heure actuelle. Quand on est dans la rue, moi, je le porte. Et par sécurité aussi. Hein, et puis aussi pour ne pas payer 5 euros d'amende. Hein.
Oui, non, mais j'entends bien. Mais les deux, c'est-à-dire que même si on vous dit qu'il n'y a pas de contamination à l'extérieur, vous n'êtes pas 100% sécurisé.
De toute façon, la preuve, moi, ma fille, elle est à l'extérieur, elle est positive, donc moi, je peux être positive également.
Vous savez pas si elle l'avait, qu'elle a attrapé à l'extérieur, votre fille, elle est partie avec des amis, peut-être, au Népal?
Ah mais non, mais vous savez, c'est les treks et tout ça, mais bon, ils sont nombreux là-haut, c'est autre chose, mais
vacciner, elle l'a peut-être appris.
Elle était loin de penser qu'elle pouvait être positive après. Hein.
Bon, en tout cas, elle est positive, mais elle n'est pas malade et c'est l'essentiel.
Oui, non, mais on ne sait pas exactement. Moi, je porte le masque parce que...
J'ai bien compris.
Hein, nous, on est moitié... Moi, je suis moitié vaccinée parce que je vais avoir la deuxième dose début juin. J'ai presque 70 ans, donc autant prendre des précautions, quoi, je veux dire.
Eh bien, c'est entendu et je pense que beaucoup de gens doivent, voilà. Pourquoi pas, se reconnaître dans votre témoignage. Et c'est pour ça que c'est intéressant.
Il est vrai aussi que nous, on est retraités. Moi, le masque, je le porte pour aller faire mes courses et tout. À la maison, je ne le porte pas.
Chez vous, vous ne le portez pas. La nuit, vous ne le portez pas.
Ah ben non, quand même
non,
pas.
Non, mais je ne sais pas, Annick.
Je veux dire par là que c'est vrai que c'est pas prenant comme les gens qui travaillent.
Non, mais il y a des gens qui portent le masque chez eux quand ils reçoivent leurs enfants, leurs petits-enfants.
Ben nous, on ne reçoit personne, vous voyez, depuis le début.
Ah, ça, vous recevez personne à cause de la pandémie depuis le début.
On a toujours fait très attention, surtout pour nos enfants.
Oui.
Et je vous dis, comme ma fille, elle est dans...
Mais vous n'avez pas fait un dîner, par exemple, ou un déjeuner depuis un an?
Non.
Mais à Noël, par exemple, même à Noël, vous n'avez rien fait?
À Noël, on s'est vu, mais bon, tout le monde avait le masque, on s'est écarté, on a essayé de faire ce qu'il fallait.
Vous êtes très...
On a fait une communion à Pâques et tout le monde n'était pas là, et avec le minimum.
Paul ?
Mais Pascal, je voudrais juste dire une chose que les gens ne tiennent pas compte. C'est que dans l'avenir, dès qu'il y aura une petite épidémie, on aura de plus en plus de malades, ça va se transformer à chaque fois en pandémie, pour une seule et bonne raison, c'est qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre.
Ah ben oui, ça c'est sûr.
Moi j'ai fait le calcul, je suis né en 51. Non, en 51, oui, il y avait 47 millions d'habitants en France. On est 70 ans après, on est 68 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'en l'espace de 70 ans, on a presque multiplié la population par 0,5. C'est-à-dire qu'on a eu 21 millions d'habitants supplémentaires en 70 ans. Vous vous rendez compte que pour arriver à 47 millions, on a été obligé d'avoir des centaines et des centaines d'années.
Ben merci à Paul et Annick de ce voilà. Petit échange. Merci à vous.
Je vous en prie.
Vraiment, c'est un sujet qui, personnellement, moi, me passionne, le masque, parce que, en fait, il révèle les personnalités, forcément, hein. Et chacun réagit en fonction de ce qu'il est, ce qui est plutôt normal. On pourra parler du temps qu'il fait, de la pluie, des nuages, du manque de chaleur. A été jolie cette chanson de Sacha Distel que vous avez tout à l'heure passée. Ah oui, elle est belle. Puis la voix de Sacha Distel. Vous savez qu'il était incroyablement beau, Sacha Distel, quand il avait 25-30 ans. Il a eu une aventure notamment avec Brigitte Bardot, qui avait fait la une, le bonheur des magazines People de l'époque. Et il faisait une émission qui s'appelait Sacha Show dans les années 60 et 70.
À l'époque, on disait peut-être pas les magazines People, comment on disait?
Je sais pas comment on disait.
Après, c'était scandale.
C'était Paris Match. C'était un très très beau couple. Il était très très beau. Il avait une belle voix. C'était un crooner. C'était un peu une sorte de Frank Sinatra. Il était acteur. Il était comédien. Il était chanteur. Nous marquons une pause et appelez-nous. On est ensemble jusqu'à 14h30. Et puis, on va peut-être croiser Cyprien Cini. Je l'espère, en tout cas. On l'appelle.
Je lui ai envoyé un SMS, bien sûr.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Nous avons terminé sur ce sujet et figurez-vous que nous allons parler de Dominique Strauss-Kahn. Il y a 10 ans, le début de l'affaire DSK secouait le monde politique. C'était le 14 mai 2011, hôtel Sofitel à New York. Une femme de chambre, Nafissa Touadéi Diallo, qui entre dans la chambre 2806. Et Dominique Strauss-Kahn est accusé de l'avoir ensuite agressé sexuellement. Un épisode qui allait ruiner les ambitions présidentielles et la carrière de DSK. J'ai le sentiment que vous voulez revenir à 10 ans d'intervalle. Il faisait très chaud d'ailleurs ce jour-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 14 mai 2011, je me souviens très très bien lorsqu'on a appris cette information, c'était un vendredi je crois, ou un samedi matin, mais en tout cas il faisait très beau et très chaud dans Paris. Elisabeth, bonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Pourquoi voulez-vous parler de ce sujet ?
Non, disons que je ne comprends pas qu'on en parle à ce point-là, de parler des 10 ans de l'affaire DSK. Enfin, bon, c'est vrai que maintenant, pour un retour à la politique de M. DSK, ben, il est grillé. Vu la société actuelle avec tous les hashtags balance ton porc, MeToo, etc., je crois que maintenant, il peut faire une croix sur sa carrière politique.
Ah ben, ça, il l'a faite.
Oui, mais je veux dire, on a toujours, il y a toujours des personnes un petit peu qui ont des espoirs, qui...
DSK
qui pourraient... ouais,
moi, j'ai pas le sentiment qu'il soit très présent dans la vie politique aujourd'hui.
Ah ben non, ben heureusement d'ailleurs. Moi, pour moi, je suis pas de gauche, etc. Mais je veux dire quand même qu'à l'époque où c'est arrivé cette histoire, je me suis toujours posé la question s'il y avait pas, je sais pas, ça m'a semblé un petit peu trop gros comme histoire.
C'est-à-dire ?
Ben, j'ai...
Vous pensez on que c'est dire... un coup monté ?
Ouais, voilà, parce
c'est
que comme
je devine dans ce que vous dites.
Exactement, parce que pour moi, comme j'ai dit, j'étais pas électrice de gauche, mais pour moi, DSK c'était le meilleur candidat à la présidentielle.
Et finalement, on connaît la suite, François Hollande qui va se présenter et qui deviendra président de la République.
Voilà, donc on finit par se demander qui aurait pu orchestrer, parce qu'il y en a certains qui ont laissé sous-entendre comme quoi ça pouvait venir du côté de Poutine. Mais apparemment, Poutine, il avait plutôt des ambitions avec DSK parce qu'il voulait faire, il voulait l'aide de Dominique Strauss-Kahn comme il était au FMI pour mettre son nouveau plan d'économie. Donc, je sais pas. Donc, mais pour moi, ça restera quand même. Pourtant,
c'est
je suis
mystérieux.
Pas du genre je suis pas du genre complotiste ou quoi que ce soit, mais ça reste quand même le coup fumant. Ça fait à peu près penser qu'avec l'affaire Fillon.
Oui.
Voilà. On va faire un rapprochement.
Parce que l'affaire Fillon, c'est aussi un complot.
Bah non, c'est pas un problème, mais ça me semble à chaque fois qu'il y a des candidats qui sont un petit peu c'est trop...
Non mais, Elisabeth, pardonnez-moi, dans une campagne électorale, tout candidat qui commence une campagne électorale sait que sa vie va être passée au crible. C'est d'ailleurs deux cas différents, parce que le cas Fillon, c'est qu'on va découvrir quelque chose qu'on n'aurait sans doute pas découvert s'il n'avait pas été en campagne électorale, mais c'est parce qu'il était en campagne électorale qu'on a fouillé sa vie, ça c'est sûr. Et puis l'affaire DSK, c'est autre chose. C'est ce qui vient percuter, c'est un événement qui vient percuter une candidature et qui ne pourra pas se faire parce que précisément, il y a un incident majeur. C'est un peu différent.
Mais en fin de compte, on a l'impression qu'on commence à devenir comme la société américaine où on commence à les fouiller dans tous les placards, les tiroirs.
Mais c'est vrai depuis toujours, Elisabeth.
Ah, mais moi, je trouve que non. Moi, je trouve pas que ce soit depuis toujours.
Écoutez, Jacques Chaban-Delmas, on avait sorti ça. Le Canard Enchaîné avait sorti les impôts de Jacques Chaban-Delmas parce qu'il ne payait pas d'impôts. Et c'est, je pense, au moment... Alors, soit il est Premier ministre, soit c'était sa candidature de 74. En 81, l'affaire des diamants... C'est elle vient percuter la campagne de Valéry Giscard d'Estaing. La seule chose qu'on pourrait dire, et qui est un mystère pour moi qui suis journaliste, c'est que François Mitterrand, personne n'a jamais dit qu'effectivement il avait une famille, une deuxième famille si j'ose dire, et une fille. Et je trouve ça plutôt bien d'ailleurs d'une certaine manière qu'à l'époque la presse n'est pas écrit ou n'est pas dit cela, c'est une sorte de respect de la vie privée et je trouve ça pas si mal en tout cas.
Ça c'est bien, c'est que
je trouve ça pas si mal cette transparence.
Quand on fait ça, privé c'est pas top. Moi je trouve que
même
qui
si,
est privé reste privé.
Même,
oui,
bah,
même
si,
s'il avait une double vie, on va dire. Mais...
Oui non mais même surtout si la vie privée elle influence la vie publique parce que il y avait du personnel qui pouvait garder.
Oui mais le problème c'est qu'on voudrait. Alors ça le paradoxe en France, c'est qu'on voudrait que les présidents soient à peu près comme une personne lambda, voilà. Mais par contre, non, ils n'ont pas le droit d'avoir la même vie qu'une personne lambda. Je sais qu'ils doivent être exemplaires, mais franchement...
Président c'est... normal, ici risqué,
oui, ben
François
voilà.
Hollande, ça ne lui a pas porté bonheur.
Ah ben oui, c'est vrai.
Ça ne lui a pas porté bonheur. Non, mais Giscard disait ça très bien, les présidents en veulent à la fois, les Français veulent à la fois un président qui soit proche d'eux et en même temps qui soit monarque. Donc, tu peux pas avoir les deux. Hein,
c'est... Ah ben, c'est le paradoxe français pour pas mal de choses.
Et vous avez parfaitement raison. Bon, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, Elisabeth ?
Eh ben, aujourd'hui, pas grand-chose. Je prépare pour partir en week-end demain.
Demain, et vous allez où ? Vous êtes en Moselle, vous allez où demain ?
Je vais en Haute-Marne. Je vais voir ma maman que je n'ai pas vue depuis le mois de mars.
Bon, et elle va bien votre maman ?
Pour l'instant, oui, très bien.
Bon,
vaccinée, tout, donc c'est impeccable.
Vous allez
nous, on attend
sur les routes.
Dose.
Vous allez être sur les routes demain et vous allez dormir peut-être chez elle ?
Voilà, fin.
Bon, bah écoutez, c'est bien.
Oui, ça fait du bien quand on peut profiter de la famille. Ça.
Voilà. Et comme dans un film de Lelouch, il y a ça quand on pense à la famille, et la famille, ça fait penser à la famille, dit Jean-Paul Belmondo dans l'itinéraire d'un enfant gâté.
D'un enfant gâté.
Voilà, il dit, et la famille, ça fait penser à la famille. Bon, bah écoutez, merci Elisabeth, vraiment.
Eh ben, bon week-end à vous alors.
Bah non, bah bon week-end à vous, soyez prudents sur la route, bien sûr.
Toujours.
Il est 13h58, le flash dans une seconde.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Il est quasiment 14h. Yann Boucherie pour le Flash.
Bonjour à tous. Un policier dans le coma dans le département de la Loire. Le fonctionnaire a été pris à partie la nuit dernière à Rives-de-Gier lors d'une intervention dans le quartier du Grand Pont pour tapage nocturne et tir de feu d'artifice. Avec ses collègues, il a été accueilli par une quinzaine de jeunes qui ont lancé des projectiles. Une bouteille en verre l'a touché à la tête. Il est tombé inconscient. Transféré à l'hôpital de Saint-Étienne, il a été opéré d'un hématome sous-dural. Pas de manifestation antisémite à Paris. Gérald Darmanin a justifié par ces termes ce matin l'interdiction du rassemblement prévu demain en soutien au peuple palestinien. Le défilé était prévu à 15h de Barbès à Bastille. De nombreux policiers resteront néanmoins mobilisés, a précisé le ministre de l'Intérieur, qui disposerait de renseignements sur des troubles possibles. Une décision sage d'interdiction, selon Anne Hidalgo, la maire de Paris. Indignation en revanche des organisateurs qui ont déposé un recours en référé liberté auprès du tribunal administratif. Ils espèrent une décision favorable dans l'après-midi. Le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, a évoqué une provocation de la part du gouvernement. Sur le front du Covid, 4 nouveaux noms sur la liste des pays à risque. Les voyageurs en provenance de Colombie, Bahreïn, Costa Rica et Uruguay devront observer à partir de dimanche une quarantaine obligatoire de 10 jours à leur arrivée en France. Décision annoncée par l'hôtel Matignon. Aux États-Unis, Joe Biden a décrété la fin du port du masque pour les personnes vaccinées. Plus besoin de l'arborer ni à l'intérieur ni à l'extérieur. La Grèce, de son côté, lance sa saison touristique. Après 7 mois de confinement, la liberté de circulation redevient la norme aujourd'hui. Seule condition désormais pour voyager dans le pays, être vacciné ou présenter un test Covid négatif. Les sports et le cyclisme, on vient de l'apprendre, Julian Alaphilippe ne sera pas champion olympique cet été. Le champion du monde français annonce qu'il n'ira pas au JO de Tokyo. La MotoGP est la première séance d'essais libres du Grand Prix de France. L'Australien Jack Miller a réalisé ce matin le meilleur temps devant le Français Johann Zarco. Fabio Quartararo, l'autre tricolore, actuellement deuxième du classement du championnat du monde et récemment opéré du bras droit, n'a pris que la 16e place. Les courses, elles ont lieu cet après-midi à Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier, le 3, le 12, le 6, le 5, le 7, le 8 et la dernière minute. Le numéro 6, un mot de météo, amélioration cet après-midi sur tout le territoire. Soleil sur l'arc atlantique et autour de la Méditerranée. Temps plus instable de la Normandie aux Alpes. Les températures de 12 à Aurillac à 22 à Marseille. RTL 14h02, c'est à vous Pascal.
Merci Yann.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et ils vont avoir la parole, les auditeurs, avec Cédric qui va nous parler de DSK, même si je salue Cyprien Sini qui nous parlera tout à l'heure et qui nous donnera le programme ce soir de On les fait le monde.
Oh là là. Jeanne Saccomano.
On les fait le monde.
Salut.
Bon, ça va Cyprien?
Impeccable, et vous?
Bah écoutez, vous n'êtes pas parti en week-end?
Bah pas encore, non, comme tout le monde, moi bon. Je travaille, hein, comme vous. Quoi.
Bah non, mais c'est bien, mais j'en suis parce que vous allez partir après?
Ah bah oui.
Fichtre, mais il fait pas beau.
Bah je sais bien, mais bon, qu'est-ce que
vous êtes bien mieux à Paris qu'aller vous jeter sur les routes, comme ça.
Je retrouve ma famille, je vais pas rester tout seul à Paris.
Mais, parfois, un peu de solitude, de réflexion n'est pas incompatible avec le métier que vous faites.
C'est vrai, ça ferait du bien un peu de réflexion.
Cédric, qui est consultant en paye. Je ne sais pas ce que c'est qu'un consultant en paye, d'ailleurs, Cédric. C'est quoi un consultant en paye?
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que c'est un consultant en paye? Ben, en fait, on a une société pour laquelle on nous calculons les salaires. Pour donc des banques, des assurances, tout type de société. Donc c'est nous qui émettons les bulletins de salaire, quoi.
Ah oui, donc ils ont externalisé dans l'entreprise.
Voilà, voilà.
Ils n'ont pas qu'il y ait un directeur de la paye chez eux. Ouais, ils ont effectivement quelqu'un à l'extérieur qui fait ce travail pour eux.
Voilà, tout à fait.
Consultant en paye.
C'est la tendance.
Bon, vous habitez la Moselle également. Pourquoi souhaitiez-vous aujourd'hui parler de DSK? C'est la question également que je posais tout à l'heure.
Donc pourquoi je voulais parler de Dominique Strauss-Kahn? Bon, donc je pense que en fait c'était pour si on envisageait un retour, je pense que ça serait plus possible que Dominique Strauss-Kahn apparaisse dans le paysage politique. parce que avec ce qui s'est passé il y a 10 ans, je dis pas que ça a été le déclencheur, hein, l'affaire DSK, mais avec maintenant comment la société a évolué avec MeToo, etc., et le sens dont la société a évolué, qui a bien évolué, hein, je trouve, ça serait plus possible. En fait, il pourrait plus, ça serait un tollé.
Mais ça l'a déjà été il y a 10 ans. Simplement, ce que on pourrait dire, c'est que si la même affaire se recommençait aujourd'hui, si elle avait lieu aujourd'hui, est-ce que l'issue de cette affaire serait la même ? Ça, la question est posée.
Oui, je pense que ça serait la même, mais ça aurait, je pense, un retentissement encore plus important, je pense. Bon, il y a 10 ans, ça avait eu, c'était un tremblement de terre, bien sûr. Mais vu comme on est maintenant, c'est vrai, la société maintenant, pour comparer avec, vous avez vu l'histoire qu'il y a eu avec Pierre Ménès, maintenant c'est vraiment une chasse à l'homme qu'il y a maintenant. Non.
Alors les affaires ne sont pas comparables, hein, attention.
C'est pas comparable.
Vraiment
pas
attention. Comparable. Hein. Et d'autant que avec Pierre, il n'y a pas de plainte qui a été déposée. Non, faut.
C'est non, mais c'est ce que je dis, c'est voilà, une chasse à l'homme contre lui.
Oui, alors c'est un mouvement qui a pu avoir lieu sur les réseaux sociaux notamment, mais effectivement, et puis faut être très clair là-dessus, il n'y a pas de plainte, je veux dire, les gens sont d'abord présumés innocents, et ils sont d'autant plus présumés innocents qu'il n'y a pas de plainte de déposer contre eux. Vous voyez, c'est pour ça que l'amalgame, il faut faire très très attention. Hein.
Tout à fait, tout à fait, et c'est pour ça que je dis, mais vous voyez... Comment la société a évolué.
Elle a changé, elle est plus sensibilisée, effectivement, voilà, au rapport, bien sûr, et vous avez raison. Vous avez raison.
Je voulais vous donner, et donc, maintenant, je pense que ça serait un retentissement encore plus important. Parce que si elle avait lieu maintenant avec MeToo, vous imaginez, 2 secondes, ça serait un cataclysme. C'était un tremblement de terre il y a 10 ans, ça serait un cataclysme aujourd'hui.
Merci.
Incroyable.
Merci Cédric de ce témoignage. Et puis figurez-vous qu'on va parler du temps qu'il fait, parce qu'on espérait qu'il fasse beau, on était tous libérés pour le week-end, et c'est pas le cas du tout.
Il fait tout gris, hein, en Moselle en tout cas.
Il fait tout gris et il va nous apporter un peu de soleil.
Ah.
Parce que sa voix, son origine aussi.
Ah, le sud. Ça... ça ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Mais c'est Marseille.
Vous connaissez, vous savez chanter, Cyprien?
Ah non, je ne chanterai pas à l'antenne.
Parce que je viens du sud, par exemple, qui est une chanson magnifique.
Chimène Badi.
Non, c'est pas Chimène Badi, c'est Michel Sardou.
Et je viens du sud et par tous les chemins, j'y reviens, tout ça.
Voilà, non, c'est d'abord Michel Sardou.
Ah bon,
évidemment.
Ah bah, alors vous l'apprenez.
Oh non, mais vous êtes sérieux?
Ah bah, moi je suis pas sardophile comme vous. Hein.
Mais c'est une chanson sans doute, c'est... Regardez, ça, c'est la tierce montante à la Jacques Revaux. Jacques Revaux, il était compositeur et il ne faisait que des tierces comme ça. Voilà. Bah, bien sûr, Revaux, c'était sa signature. Et puis, il y a les codas à la fin des chansons.
Mais d'accord, mais je découvre que c'est Sardou et pas Chimène Badi, cette chanson.
Mais vous connaissez Michel Sardou? Vous avez entendu parler de Michel Sardou?
J'adore Michel. Enfin, je connais plein de chansons de Michel Sardou, mais pas celle-là. Je savais pas que Michel Sardou venait du Sud.
Mais il vient du Sud. Son père, c'est Fernand Sardou. Il est né à Neuilly, mais son père, c'est Fernand Sardou, qui est une icône des films de Pagnol.
Ouais.
Pas de Pagnol d'ailleurs, mais un peu plus tard.
Voilà.
Qui a
Radio
repris
Précision,
des rôles
bonjour.
De Pagnol. Oh là là, mais faut vraiment faire toute votre culture de ces années 60-70. Bon, qu'est-ce que vous faites ce soir?
Ce soir, on va aller dîner, on va sortir, non je rigole, on va déjeuner. On va faire une émission, on défait le monde évidemment. L'émission du vendredi soir. Alors ce soir au programme, on va parler de l'armée. Vous savez, on avait beaucoup parlé de l'armée, hein, des tribunes de militaires, etc. On va s'interroger sur le rôle de l'armée dans la société. Quel est le rôle de l'armée dans la société? On parlera également chirurgie esthétique. Je sais que ça vous intéresse particulièrement, chirurgie plastique.
Bien
je sais
sûr.
Que vous y songez, notamment pour vous faire un petit peu tirer au-dessus des yeux. Bref, en 2020, les consultations chez un chirurgien plastique ont augmenté de 30%. On va allumer la lumière sur ce sujet. Pourquoi? Comment? Quelle est l'évolution? Et puis voilà, on parlera également du loser de la semaine. Vous découvrirez, ça parle de Emmanuel Macron et François Bayrou. Il y a de l'eau dans le gaz dans le mariage.
Dites-moi, est-ce qu'un caporal est au-dessus d'un adjudant?
Ouais, ça sentait le piège, cette absence.
Vous savez qu'il a regardé sur son portable juste avant, quand même,
bien question. Sûr.
Je le vois bien noté.
Est-ce qu'un caporal est au-dessus d'un adjudant? Oui ou non?
Je dis oui.
Mais non.
Mais j'en sais rien, moi c'est pas moi qui vais faire le sujet, c'est Brice Dugénie qui est notre spécialiste armé.
Alors,
ici à RTL.
Soldat, caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, sergent-major, adjudant, adjudant-chef, major, aspirant.
Mais Cruchot était adjudant en chef.
Mais je suis pas sûr d'ailleurs de ce que j'ai dit. Je crois que je suis pas sûr que ce soit dans le bon ordre. Il vient écouter Cruchot.
Eh, vous le faites bien.
Bah, très bien. Ce soir, non mais c'est bien, ça fait un jeu de savoir les grades. Ah ouais, maréchal des logis, par exemple, vous savez ce que c'est?
Maréchal des logis. C'est-à-dire qu'il s'occupe des maisons. C'est le maréchal des maisons, des logis.
Quelle honte. Mais vous n'avez pas fait votre service, évidemment.
Eh ben malheureusement, non, moi je suis né trop tard.
Bah oui.
Ça n'existait plus, Jacques Chirac l'avait enlevé. J'ai fait la journée de formation, on vous apprend à lire et tout ça.
Il s'est passé comment le vôtre de service, Pascal?
14h10, on va marquer une pause.
Attendez, il y a un cadeau quand même. On peut gagner un week-end à Caen. C'est superbe, Caen. C'est belle ville.
En Normandie.
En Normandie.
C'est sympa.
Ouais, ça c'est cool.
C'est... 14h10, vous pourrez voir, vous connaissez le sketch de Raymond Devos avec la mère qui est démontée à Caen.
Ah, mais ces références des années 40, j'en peux plus. Sortez-le de là.
Allez, on va vous allez nous le montrer, Greg Caranoni. Et on revient avec la météo, avec Sylvie, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Ah oui, il fait pas beau, effectivement, hein, Véronique Sanson. Mais je regardais la hiérarchie militaire pour faire le pont avec la conversation qu'on avait avec Cyprien. Et dans l'armée, les mots politiquement corrects ne sont pas encore arrivés. C'est-à-dire qu'on parle d'officier subalterne ou d'officier supérieur. Vous voyez, c'est des mots qui sont une forme de violence qui n'existerait pas forcément dans l'entreprise. Et je vous confirme que le caporal est en dessous de l'adjudant. Et puis, dans les officiers supérieurs, vous avez colonel, lieutenant-colonel, commandant. On en parlera ce soir, si j'ai bien compris, entre 19h15 et 20h. On est avec Sylvie. On est avec Sylvie parce qu'on veut parler de la météo et de ce temps pourri alors qu'on était content. Vous avez peut-être pris quelques jours de repos ou de vacances, Sylvie ?
J'ai pris une semaine parce que je me marie demain.
Non !
Mais c'est mal barré.
Mariage pluvieux, mais vous, mais ça c'est fort. Ah ben attendez, je suis content que vous mariez deux. C'est gentil de nous appeler en plus.
Pardon, Pascal, mais il me semble que mariage pluvieux, c'est pluvieux dans l'âge et pas pluvieux
à
la pluie.
Voilà, tout à fait. C'est pas pluvieux de la pluie.
Comment ça, c'est mariage pluvieux, mariage heureux?
Oui, pluvieux, plus âgé.
Oui, mais mariage en deux mots, plus vieux.
Mais enfin, ça va pas, non? Mais on dit...
Si, c'est ça.
Ah bon?
Ça n'a rien à voir avec la pluie, rien à voir avec le temps.
Vous m'étonnez. Dites-moi, Sylvie, d'abord, c'est gentil de nous appeler. Hein, vous vous mariez demain, c'est un premier mariage?
Oui, c'est pour moi, du moins.
Et votre mari, non?
Non, c'est son second.
Et alors, vous vous mariez à l'église ou à la mairie?
Non, on fait que la mairie, parce que l'église, c'est un peu compliqué... Déjà, on se marie pas dans notre commune parce que ça a été compliqué avec la mairie. Enfin, ils sont un peu. J'habite à Mulhouse et je me marie en fait à Wittenheim parce que ma future belle-mère habite là-bas, donc on a eu une dérogation.
Bah c'est oui, c'est bien. Mais alors, vous serez combien?
Alors, on sera 18.
Ce qui est un chiffre minimum, j'imagine. Vous auriez été sans doute davantage s'il n'y avait pas.
80.
Ah, vous auriez été 80,
oui. Oui, mais en fait, on a réduit à nos mamans, nos frères et sœurs, et mon compagnon en a 5, hein, plus leurs conjoints et les enfants.
Ah, mais ça, c'est drôle, parce qu'en fait, vous nous appeliez pour la météo, et puis ça nous intéresse, nous, un mariage. Pourquoi vous avez préféré vous garder la date du mariage demain à 18, plutôt, par exemple, que de la reculer à l'automne?
Parce que ça fait 4 fois qu'on recule.
C'est effectivement. Quand est-ce que vous deviez vous marier la première fois?
Alors, la première fois, c'était il y a 3 ans. Je vous explique en gros. Mon compagnon est portugais, il est divorcé. Mais au Portugal, pour que le divorce soit acté, il faut passer par un tribunal, par un avocat. Enfin, c'est plus compliqué qu'en France. Et donc, on a eu pas mal de soucis pour trouver l'avocat. On est passé par 3 avocats qui n'ont pas fait vraiment leur boulot. Mmh. Après, il y a eu le Covid. Après, il y a eu enfin tout ça, quoi. Donc, ça a pris énormément de temps.
Et depuis le Covid, il y avait peut-être une ou deux dates de prévues. C'était l'année dernière?
Voilà. L'année dernière, au mois de mai. Mmh.
Donc là, vous l'avez remis.
Pas au mois de mai, pardon, au mois d'août.
Oui.
Et puis, donc, quand on a vu qu'on serait aussi réduit, on s'est dit tant pis, en espérant que cette année, ça irait mieux. Et puis,
et ça
finalement,
pas mieux.
Ça n'allait pas mieux. Donc, on s'est dit, maintenant, on se lance. On devait se marier en avril. Enfin, on avait choisi le week-end de Pâques parce qu'en Alsace, on a 2 jours de congé en plus. Mmh. Le vendredi est férié, le vendredi saint et le lundi de Pâques comme ailleurs. Et comme moi, j'ai de la famille dans le sud de la France, à côté d'Aix, pour eux, c'est plus facile de monter un week-end prolongé.
Bon, et puis, finalement, ça n'a pas pu se faire non plus.
Finalement, ça n'a pas pu se faire.
Donc là, c'est la bonne. Bon, Voilà, demain, donc parce que ça nous ramène à la météo, demain vous avez prévu une petite tenue légère peut-être
et
vous...
J'ai prévu une robe courte, décolletée et des sandales.
Des sandales à talons ?
Avec un petit talon, oui, absolument. Mmh.
Donc des sandales ouvertes ?
Voilà.
Donc vous serez pieds nus, c'est ça ?
Voilà.
Et vous avez peur d'avoir un peu froid ?
Bah voilà, donc le plan B c'était une autre paire de chaussures, mais avec les magasins fermés c'est un peu compliqué.
Ah oui.
Donc, bah,
et c'est en blanc demain la tenue ?
Non, non. Non.
C'est parce quelle que couleur ?
J'ai 56 ans et je me voyais mal me marier en blanc.
Bah pourquoi
déjà,
pas ?
Et puis j'ai un gamin qui va avoir 20 ans donc encore moins. Non, non, je serai en jaune pâle.
D'accord. Bah écoutez, et alors vous le connaissez depuis combien de temps votre compagnon ?
21 ans.
Ah oui, effectivement, c'est pas... Ça fait 21 ans qu'il est marié ?
Non, non, ça fait, il était divorcé quand je l'ai rencontré.
Ah d'ailleurs, ça fait 21 ans qu'il est pas divorcé depuis 21 ans ?
Au Portugal.
Non, c'est des divorces à rallonge, hein, ça...
Ah non, mais c'est... Bah, disons qu'au départ, on voulait pas obligatoirement se marier. Et puis quand on a pris la décision de le faire, eh ben, on s'est retrouvés face à ces complications.
Ah ben, oui, ça je comprends, parce qu'effectivement, ça, c'est pas simple. Et vous vivez ensemble ?
Oui.
Bon, donc c'est un beau moment demain.
Ah oui, complètement. Complètement.
Ouais. Et alors,
ça fait une semaine qu'on se dit, la semaine prochaine, on va être mariés. La semaine prochaine, on va être mariés.
En fait, vous avez 21 ans de vie commune, quasiment ?
Pratiquement, oui.
Vous êtes, ça a été un coup de foudre ?
Ah oui, oui. J'ai traversé le palier de mon immeuble et je l'ai vu. Et voilà.
Bah écoutez, c'est une belle histoire, Sylvie.
Oui.
C'est une belle histoire avec un joli mariage. Et bah, je vous félicite. On a peut-être une petite musique pour accompagner ça. La musique de Mendelssohn, la marche nuptiale. Vous avez prévu un petit discours ?
Lui apparemment oui, moi je ne sais pas encore parce que je suis hyper émotive, donc on a nos papas qui ne sont plus là, donc c'est quelque chose d'un peu compliqué pour moi et pour lui aussi d'ailleurs, et c'est vrai que bon.
Quel est son prénom ?
On va dire quelques mots, mais bon, au repas.
Son prénom, Europa, son prénom ?
Non, 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 pardon, Victor.
Victor. Victor.
Bon. Mais attendez, Pascal, il faut quand même que je vous dise qu'on a un mariage un peu particulier.
C'est-à-dire ?
Il ne faut pas oublier qu'il y a le couvre-feu.
Ah oui, donc vous faites
on mange
ça plutôt, oui.
À midi, on va se marier et après on revient pour le dessert.
Et après on revient pour
le dessert.
D'accord. Et à 19h, tout le monde doit être rentré.
Eh ben voilà.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a couvre-feu demain, ah effectivement. Oui. Donc il doit pas avoir beaucoup de mariages en ce moment, Sylvie.
J'ai pas l'impression.
Le maire, je pense qu'il a, faut qu'il retrouve les papiers pour se marier. Il faut qu'il retrouve le grand livre, parce qu'il n'a, il doit être un peu plein de poussière. Bon bah écoutez, vraiment, je vous félicite.
Merci beaucoup.
Ouais, parce
oh,
que
c'est gentil.
Mais non, mais c'est, y a pas. Et puis en plus, c'est quand on se marie, qu'on est ensemble depuis 21 ans. Il n'y a pas d'inquiétude si le mariage va tenir ou pas.
Non, je ne crois pas, effectivement.
Ah, bah écoutez, je vous félicite, vraiment.
Merci beaucoup, Pascal.
Merci, Sylvie.
Et je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, vous dites à Cyprien Sini que, franchement, il n'a vraiment aucune culture de ne pas savoir que je viens du Sud, c'est Sardou.
Bah, il est jeune, Cyprien, c'est pour ça. Vous savez, nous, c'est générationnel, toutes ces choses-là.
Oui. Absolument, mais moi je suis une grande, grande fan de Sardou aussi.
Merci Sylvie, on va marquer une pause alors qu'on entend peut-être...
Un peu d'Elvis Presley, je trouvais que c'était, comment dire, à propos pour le mariage de Sylvie. On aime bien écouter du Elvis pendant les mariages.
Merci,
c'est
merci
romantique.
Beaucoup.
Avec plaisir Sylvie.
Vous êtes marié, bon Greg ?
Oui, je suis marié, Pascal.
Vous êtes marié à l'église ?
Absolument.
C'était bien ?
Oui, c'était bien, bien sûr.
C'était un bon souvenir.
C'était un bon souvenir. Je préfère ne pas m'étaler sur ce sujet.
Il n'y avait pas malice dans mes questions.
Non, non, je sais.
14h20, la pause, et vous nous parlez de la météo et du week-end que vous passez. Ça nous intéresse comment vous le passez ce week-end. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Un soir de pluie et de brouillard.
Alors, il y a des gens quand même qui ont du beau temps, figurez-vous, et évidemment, ils sont dans le sud. Et c'est Marie. Bonjour Marie.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous, vous êtes à Marseille.
Oui, absolument.
Et il fait un temps sublime.
Il fait un temps très beau.
Ah oui, mais vous êtes à Marseille, qu'est-ce que vous...
Alors voilà, le 14 dans le matin, donc la fenêtre est ouverte la nuit, parce que j'aime bien. Hein, il fait pas très froid, donc je me couvre et je laisse tout ouvert en grand, sans fermer les volets parce que je regarde les étoiles de mon lit. Bon, j'ai un petit appartement et une immense terrasse qui donne sur des grands arbres qui se balancent gentiment avec des petites pies qui passent. Je suis quasiment sur le Prado et je n'entends pas une mouche voler parce que ça donne sur un grand jardin exotique. Voilà, je vous dis le décor. Ceci dit, il fait très très chaud, je suis en maillot. J'ai mis un chapeau et descendu un peu ma bâche, parce que le soleil tape et que je ne supporte déjà plus. Mais je prends une petite heure de soleil, je vous écoute. Ensuite, je lis des pensées bouddhistes, des trucs comme ça. Je suis très seule, hein, je vous dis franchement, donc je devrais craquer et tout. Mais j'ai pas envie de parler de choses qu'ils sachent. Et moi, mon petit bonheur, il est tout à fait personnel et c'est l'introspection qui me fait avancer. Et je vous dis, on a un très beau temps. De temps en temps, il passe un tout petit nuage qui me fait de l'ombre et qui fait du bien. Même mon petit chien, Epsilon, il est rentré parce qu'il a trop chaud. Voilà.
Lorsque vous êtes sur la terrasse, vous êtes à l'abri des regards lorsque vous bronzez comme ça ?
Il y a des maisons très loin, mais bon, je fais très attention, j'ai un paréo,
Vous faites ce que vous voulez. Hein,
je veux dire, on ne sait jamais, les longues vues, les machins, on peut penser à tout. Mais ceci dit, j'ai des maisons plus loin, mais moi je vous assure, je vous envoie une photo, j'ai que des arbres exotiques.
Ben, vous êtes bien, jardin. Et puis le Prado, c'est un joli quartier de Marseille.
J'ai choisi. Enfin,
le Prado qui mène sur le stade Vélodrome, près du boulevard Michelet.
Voilà. Non, je suis pas loin du stade Vélodrome, un peu avant, à 100 mètres du stade Vélodrome en avant.
Bah, écoutez...
Voilà. Donc près du marché, etc. Non, je suis très bien. Je paye très cher, mais bon, peu importe, je suis en location, moi. Hein. Mm-hmm. Mais j'ai préféré choisir ce coin tranquille, avec une grande terrasse pleine de soleil. Par contre, l'été, il n'est pas permis de se mettre au soleil.
Parce que c'est trop chaud.
Ah, il fait trop chaud. Là, c'est une période très agréable parce que le matin, c'est frais. Donc, c'est aéré dans la maison. Le soir, pareil. Et puis, à midi, je peux rester qu'une heure, une heure et demie. Hein. Bon, disons, comme je disais à votre coéquipier, que je me suis baignée carrément jusqu'à 65 ans, toute l'année, 365 jours par an, par tous les temps.
Bon. Et vous ne faites
maintenant,
plus.
Et maintenant, j'ai une petite bronchite chronique. Il faut que je stoppe. Donc, je ne peux plus. Et puis, alors, il y a du monde sur les plages, je voulais vous le dire. Les plages et les parcs, c'est surbondé. Mais évidemment, il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas de restaurant pour l'instant. Hein, on verra.
Ben merci Marie de ce témoignage. Bernard est là également. Alors, Bernard a de la chance, pareil que vous, puisque dans les Alpes de Haute-Provence, il fait beau. Et
Pascal, j'habite. Je vous appelle de Josiers. Dans les Alpes de Haute-Provence, je suis à peu près, à une heure et demie, deux heures à vol d'oiseau de Marseille, quoi, en fait. Hein. Mmh. Donc on a le même temps, un beau soleil, etc. Sauf que il fait pas la même température. Comme je suis à 1300 mètres, mon chalet, donc on a 12-14 degrés, quoi. Là, vous voyez.
Et ça, c'est la température habituelle ou c'est un peu plus frais que d'habitude?
Si vous voulez, nous ici, quand même, à 1300 mètres. On a des fois des 32 degrés ou des choses comme ça, si vous voulez, mais on a quand même un peu moins que d'ailleurs. Et ce que je voulais vous dire, parce que c'est un petit peu moins, peut-être un peu plus technique, je vais dire, nous ici, de lundi, mardi, peut-être un peu mercredi, il est tombé des hallebardes. Hein. C'est pas habituel, on a généralement du beau temps aussi ici. Mais alors nous, c'est un peu plus technique parce que on est dans la vallée de Lubaye. Vous savez sûrement, et donc on a le torrent Lubaye qui est un des torrents les plus rapides d'Europe. Hein. Et donc là, moi je suis au conseil municipal là, du village, et tous les villages environnants, on était inquiets pour la crue, voyez-vous.
Et finalement
Parce que pour vous donner un chiffre, alors je suis pas tout à fait sûr des chiffres, mais bon, je vais vous dire, on fait beaucoup de rafting ici. Hein. Et quand on fait du rafting, on dit au-delà de 50 mètres cubes seconde, dans les endroits un peu difficiles, il faut faire gaffe. Quoi. Vous voyez, et là, on était monté à 250 mètres cubes seconde. Vous voyez. Donc, c'était vachement impressionnant. Et d'ailleurs, il a débordé un peu. Bon, ça s'est resté dans les limites du raisonnable. Mais vous voyez, nous, quand il pleut comme ça, c'est la météo, c'est pas que ludique. Pour tout vous dire, c'est aussi des fois des contraintes. Ça peut déborder, peut avoir des inondations, des choses comme ça. Quoi. Là, pendant, ça n'a pas arrêté, mais c'était infernal. Quoi, ça. Lundi, mardi, c'était.
Ça a été dur. Bon, comme Josiane attend depuis un moment, je voulais juste qu'on termine avec elle, Bernard, parce qu'elle est aux Pays-Bas, Josiane. Bonjour, Josiane.
Oui, bonjour.
Mais vous êtes en week-end ou vous vivez aux Pays-Bas?
Je vis aux Pays-Bas.
Pays-Bas, l'autre pays du beau temps.
Ah bah oui, il fait très beau aux Pays-Bas, ça bah, c'est connu que pour ça d'ailleurs.
C'est pour ça que j'y suis allée, pour oui. profiter de cette...
C'est vrai qu'à chaque fois que j'y suis allée, même en plein été, il fait pas très... on voit pas souvent le soleil, hein. C'est pas simple quand même, non?
Bah, c'est-à-dire que là, on peut pas trop se plaindre. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, à nouveau, ce matin, il y a plu, maintenant, il pleut plus. C'est vrai que là, c'est vrai qu'on a quand même un mois de mai qui est assez pourri, mais on n'a pas eu trop de pluie. Non, c'est vrai que je
vous
plaisante.
Vous êtes où au Pays-Bas?
Pardon?
Vous êtes dans quelle ville?
À Enschede.
D'accord. Il fait 11 degrés quand même ce matin.
Il fait 11 degrés, ouais.
On est le 14.
C'était moins, c'était 8. Non, mais c'est vrai qu'à part le week-end dernier, on a eu 26. Depuis, c'est vrai que là, on ne sait plus très bien. Moi, j'en ai marre. Mon anorak, je vais finir par... il va s'user rien que de le regarder tellement je le mets tout le temps, quoi.
Josiane, on vous laisse parce que c'est le débrief, mais on voulait vous faire vite un petit coucou pour que vous n'ayez pas patienté pour rien. Merci à tous. Et c'est le débrief de Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Je ne sais ce qu'il a gardé de cette heure 30.
Les Américains vaccinés contre le Covid-19 n'ont plus besoin de porter le masque en intérieur. Faut-il prendre la même mesure en France ?
Parler avec quelqu'un qui ne penserait pas comme vous sur ce sujet-là, c'est quasiment impossible. Les deux camps ne peuvent pas s'entendre.
Battle d'opinion en perspective. Christophe a été le premier à intervenir.
Il faut quand même que la vie normale reprenne. Donc on ne peut pas être toujours sous cloche. Quand je vois que les gens acceptent le masque dehors, soit ils vous regardent avec des yeux ronds quand vous ne l'avez pas, comme si vous alliez les tuer par un cracheur, ou alors ils sont blasés comme des moutons de panurge. Je crois qu'on leur demanderait, les Français, de mettre un bouclier parce qu'il y a un éclat de météorite qui va tomber, ils prendraient un bouclier.
Ne parlez plus du masque à Paul également.
Quand je suis dehors dans la rue, je suis désolé, je ne porte rien du tout.
Des avis que ne partage pas Annick.
Le masque, c'est pas quand même insurmontable. Ce matin, j'étais en course, il y a une dame âgée qui avait pas son masque. C'est moi qui lui ai dit.
Non. Et sinon, Franck a tenté de faire intervenir sa femme.
J'ai ma femme qui vous adore, qui est fan de vous.
Ah.
Et qui voulait vous dire un petit mot.
Ah oui.
Attendez, je vais pas plus continuer.
Voilà.
Elle est partie.
Non, elle ne veut pas. Et nous sommes mi-mai. Vous en avez marre de la pluie? Des nuages, du manque de chaleur.
Toute la pluie tombe sur moi.
Ouais, c'est vrai qu'il fait pas chaud en ce moment.
Il fait frisquette.
Mais oui, il n'y a plus de saison, ma pauvre dame. C'est quand même le week-end de l'Ascension.
On est libéré, mais on n'est pas ensoleillé.
Et Sylvie, y a un beau projet.
Je me marie demain.
Non.
Mais c'est mal barré.
Et oui, mariage pour Sylvie. Le vendredi, vous le savez, c'est la visite de notre surfeur Cyprien Siné.
Ce soir, on va aller dîner, on va sortir.
Le programme dont défait le monde.
Ce soir, on va aller dîner, on va sortir.
Et reprenons notre jeu de la semaine, les questions pièges de Pascal Pro.
Est-ce qu'un caporal est au-dessus d'un adjudant? Oui ou non?
Je dis oui.
Mais non. Mais
j'en sais rien, moi, c'est pas moi qui vais faire le sujet, c'est Brice Dugénie qui est notre spécialiste.
Non!
Possible! C'est pas possible!
14h29, l'heure passe, il est l'heure, bientôt dans les faits pour s'entendre avec Flavie.
Wesh poteau, ça va?
Oui, ça a l'air de vous choquer, Pascal.
Wesh poteau, vous m'avez dit?
Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé!
Salut, boloss!
Oh, je vous en prie, on se quitte en s'échauffant un petit peu la voix avant la semaine prochaine et cette date du mercredi 19 mai. Oui, mercredi, le jour de la réouverture des terrasses des restaurants.
La pause des Flavie Flamand.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole.